Nous lirons ce matin dans le chapitre 3, verset 23, jusqu'au chapitre 4 et verset 7. Nous faisons lecture dans l'épître de Paul aux Galates à partir du chapitre 3, verset 23, jusqu'au chapitre 4, verset 7. Et pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. Galates 3, 23 à 4, 7. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est inouïe, qui est extraordinaire, qui est pleine de ramifications depuis les tout premiers versets jusqu'au tout dernier. Merci pour cette parole qui est profonde, de laquelle on peut tirer énormément de richesses. Merci aussi pour cette parole qui est audible par des enfants. Merci pour cette parole qui, dans le nom de l'Évangile, devient accessible, compréhensible. Et notre prière, Seigneur, c'est que là où il y a des choses extrêmement profondes à saisir, que tu nous donnes de saisir ce qu'on a simplement besoin de comprendre aujourd'hui. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de recevoir cette parole que tu as donnée, révélée par l'œuvre de l'Esprit Saint auprès des prophètes, des apôtres, de ceux qui ont écrit de ta part. Merci, Seigneur, parce que dans ta divine providence, toi le Père, le Fils et l'Esprit Saint, tu es là présent par ce même Esprit Saint. Notre prière, c'est que ton Esprit Saint, qui a révélé ce texte à Paul, nous parle aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce qu'on a besoin de comprendre. Donne-nous, chacune et chacun ici ce matin, de pouvoir cheminer, avancer, aller un pas en avant, aller plus loin, plus en profondeur, plus en beauté, plus en proximité avec toi, notre Père. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, là où nous sommes les uns et les autres, d'aller plus en avant et de grandir dans la connaissance de ton nom. Et Seigneur, nous te demandons cela comme un privilège que tu nous accordes en nous invitant et en nous accordant cette grâce de nous parler. Alors oui, parle-nous, car nous, tes serviteurs, voulons t'écouter. Parle-nous, toi, notre Père, afin que nous comprenions ce que tu attends de tes enfants. Parle-nous, Seigneur, nous, tes créatures, afin que nous puissions grandir dans la présence du Créateur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de voir ta parole semée en nous et porter du fruit. Et à toi en soit la gloire. Nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reprendre place. Ce matin, je vous invite donc à un peu survoler ce texte, mais le survoler en gardant une ligne directrice qui, en fait, ce matin, pour sûr, nous concerne tous. Alors, avant d'entrer dans ce survol, j'aimerais simplement rappeler les enjeux de cette lettre. On le voit depuis quelques semaines maintenant. Et les enjeux de cette lettre, si on pouvait le résumer ainsi, c'est le propos que tient Paul, la dénonciation que fait Paul, d'opposer, parce qu'il y a une opposition, entre l'évangile et une forme religieuse que l'on appelle le légalisme, c'est-à-dire une forme, une façon de se dire « je vais par mes propres moyens plaire à Dieu ». Et Paul oppose ceci à l'évangile qui en rien ne peut venir de nous, qui est un don gratuit de Dieu. Et Paul argumente sur ce point parce que les Galates, les chrétiennes et les chrétiens de Galates, qui ont entendu l'évangile, qui ont a priori reçu l'évangile de la part de Paul lui-même, eh bien, s'en sont égarés, s'en sont détournés, sont partis sur une autre voie. Et donc, Paul ici argumente pour ramener les Galates à la raison, pour les ramener au bon sens, pour les ramener à la foi, pour les ramener à la vitalité spirituelle qu'ils ont quelque peu perdue, parce qu'ils ont fait une énorme, Paul on peut le décrire un peu comme ça, ils ont fait en fait une gigantesque marche arrière dans leur vie, dans leur piété et dans leur théologie, et tout est lié évidemment. En fait, l'état des Galates là, c'est comme s'ils étaient venus dans la présence du Seigneur et puis qu'ils font un pas de plusieurs siècles en arrière et qu'ils oublient ce qui s'est fait avec la dynamique de l'évangile ici. Et en faisant cela, et on l'a abordé un petit peu, il y a sûrement d'autres façons d'aborder le livre, mais c'est celui que je vous ai proposé en tout cas ces dernières semaines. En faisant cela, en fait, en faisant cette marche arrière, en oubliant la dynamique de l'évangile qui se trouve ici devant eux, eh bien, en fait, les Galates, les chrétiennes et les chrétiens de Galates, sont en train de manquer toute une série de bonnes choses. En fait, Paul, la lecture que je vous propose en tout cas, c'est de voir ce qu'il manque, de voir tous les loupés dans leur vie et tout ce qui risque de louper encore s'ils ne prêtent pas attention au texte qui est là. Et évidemment, l'enjeu de l'étude de ce livre, c'est de se dire, mais en quoi est-ce que nous pourrions bel et bien être concernés? Oui, nous sommes concernés, peut-être pas par les mêmes circonstances, mais nous sommes concernés parce que c'est inhérent à l'espèce humaine depuis la chute, absolument inhérent de chercher nos propres voies, de vouloir notre autonomie, de vouloir faire les choses selon nos propres critères, selon nos propres voies, même dans les bonnes choses, même dans le désir de servir Dieu, combien il est facile de nous environner de choses en se disant au fond de nous, et on va y revenir dans un instant, en se disant au fond de nous que finalement nous cherchons à faire des deals avec le Seigneur. Je me souviens mon professeur d'hébreu qui était aussi notre professeur d'histoire, notre professeur d'hébreu qui avait une particularité à l'étude de cette langue qui n'est pas toujours évidente, certains parmi nous le savent, de voir combien l'hébreu, il nous disait, est une langue de bédouins. C'est une langue qui se parlait dans les déserts avec les bêtes, avec les animaux, les troupeaux. Et il y avait ce côté marchandage un petit peu, hein, de se dire, il y a ce côté dans le... Dans ce n'est pas les Grecs, les philosophes, qui sont très carrés dans leur façon là. « Ah, on ne peut pas marchander un petit peu, puis faire un petit chose là. » Eh bien, c'est extraordinaire combien on est comme ça avec le Seigneur. On marchande. En marchant, en lui disant, « Et si tu ne me donnes pas ça, moi, je n'y vais pas faire ça. » Ou on dit, « Et si je te donne ça, est-ce que toi, tu peux me donner ça ?» Eh bien, on va avancer un petit peu plus ici, parce que Paul est en train de dire, le marchandage ne marche pas avec le Seigneur. Et en fait, on manque énormément de choses quand on perd l'évangile ici. Et dans l'extrait que nous avons lu ici, nous avons deux illustrations, deux images qui nous sont données, qui sont parlantes d'elles-mêmes. Et ces deux illustrations, enfin, il y en a plusieurs, mais j'en retiens deux. On reviendra par la suite sur d'autres encore. Mais ici, les illustrations du texte que nous avons lu font appel à un statut, celui d'enfant, celui de fils, le statut particulier que peut avoir un enfant, que peut avoir un fils, par exemple, dans une maisonnée, dans une large maisonnée, où il pourrait y avoir un certain nombre de serviteurs et de servantes. Vous savez que le mot serviteur-servante est le même que le mot esclave, donc on peut passer d'un terme à l'autre ici, mais il est en train de distinguer le fait qu'il y a une notion de fils, d'enfant qui est là, et c'est ce que nous voulons relever ce matin, qui est un statut bien à part, même si, par exemple, dans le cas d'un enfant, eh bien, c'est un temps où l'enfant qui peut être le fils du maître dans la maisonnée, le fils des gens qui tiennent cette maisonnée, eh bien, ce n'est pas parce qu'il est fils qu'il a tous les privilèges et tous les droits et tous les devoirs. En tant qu'enfant, il va être sous des tuteurs, il va être sous des mentors, il va être sous les serviteurs, il n'aura pas tous les privilèges, mais il n'empêche qu'il est quand même un enfant de la maisonnée ici. La première des images qui nous est donnée présente le croyant qui est conduit dans l'Ancien Testament, ce qui donc ici peut être appelé la loi, il est conduit dans l'Ancien Testament et en fait, il est conduit en vue de passer à une autre étape, comme l'enfant peut être conduit en vue d'eux, et il est conduit pour y voir Christ. La loi, il est présenté comme un précepteur, peut-être dans vos traductions, vous avez le mot pédagogue, et il faut préciser que ici, moi, quand j'ai lu ça au départ, et quand je lisais ça jusque-là, je me disais, un pédagogue, un précepteur, dans ma pensée, peut-être dans le français courant, on pense à l'école à la maison. C'est-à-dire, on pense à un enseignant qui vient à la maison, et qui nous donne des cours à la maison. Ce n'est pas le terme ici. Le sens ici du précepteur, du pédagogue, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de superviser l'enfant pour le conduire à l'enseignant, pour le conduire au maître. Hein, le pédagogue est un surveillant, en fait, en termes modernes, on dirait nounou. C'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des enfants et qui fait en sorte que les enfants soient à l'école, aillent aux différentes activités, et qui fait en sorte que l'enfant donc, soit sous protection, soit géré, apprenne des bonnes manières et remplisse sa vie, sachant que les parents, a priori, sont occupés à d'autres tâches et à d'autres choses ici. Et donc, le pédagogue, le précepteur ici, a la responsabilité donc, de servir les parents, de servir le maître de la maison, mais également donc, de mener l'enfant dans le déroulement de sa vie, dans les différentes activités pédagogiques qui peuvent être les siennes. Et bien dans l'image qui est donnée ici, le chrétien est appelé ainsi à suivre son pédagogue, c'est-à-dire ici à voir dans l'Ancien Testament un pédagogue qui nous donne non pas d'être une fin en lui-même, mais de nous mener vers le maître qui s'appelle Jésus-Christ, de nous mener vers la réalité de l'évangile et ainsi de pouvoir passer à un moment de mettre sa... De voir dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ l'objet de sa foi, de voir ce qu'il doit croire, ce qu'il doit être, et également d'y mettre sa foi, dans le sens d'y mettre sa confiance, de pouvoir y mettre sa vie ici. Et donc, si on comprend l'image ainsi, les Galates, qui ont entendu l'Évangile, en fait, en retournant à la loi, sont en train de louper l'objectif qui était ici, sachant qu'ils ne mettent plus l'accent sur le maître. Ils ne mettent plus l'accent sur les parents, mais ils mettent l'accent sur le pédagogue. Ils mettent l'accent sur celui qui est sur la nounou, quoi. C'est un petit peu comme si nos enfants voyaient comme le leadership de leur vie dans la nounou, et non pas dans le parent ou dans le pédagogue ici. Eh bien, les Galates ont perdu, en ayant étendu l'évangile et retournant à la loi, en fait, Paul est en train de donner l'image que c'est un petit peu s'il mettait plus l'accent sur le pédagogue que sur le maître ou que sur le père. Je relis ce texte. « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, qui avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et là, je passe à la deuxième illustration. Je vous ai dit, on survole ici pour aller plus loin, mais pour aller un peu précis. La deuxième illustration, elle présente le croyant comme un fils. Les filles, c'est bon, hein, c'est fils et filles, hein, donc on soit clair là-dessus, on fait générique ici, comme un fils qui est distinct du serviteur. Or, dans l'image qui est donnée ici, ce fils, cet enfant, doit passer du statut d'enfant à celui d'adulte. En tant qu'enfant, il est sous tutelle. C'est intéressant de voir tous les aspects. Les mots s'entrecoupent, hein, quand on parle du pédagogue tout à l'heure, quand on parle du tuteur, de l'administrateur, c'est vraiment le rôle qui est donné. Il y a plusieurs titres ici, mais qui peuvent être assez interchangeables. Il y en a juste un, l'administrateur, c'est celui qui gère aussi tout le patrimoine que l'enfant aura plus tard. Donc il y a des choses qui sont intéressantes ici, mais l'idée ici donc, c'est que l'enfant, tant qu'il est enfant, tout fils qu'il est, eh bien, il est sous tutelle, mais Paul montre que cela n'enlève en rien qu'il est fils. Et le chrétien doit donc comprendre qu'il est adopté, qu'il est un fils adopté comme fils de Dieu, et qu'il doit donc entrer dans le temps fixé par le Père et devenir adulte. Il doit donc d'une part prendre acte qu'en tant qu'enfant, il entre dans le monde adulte, il doit rentrer dans l'étape où il n'est plus enfant. D'autre part, il doit prendre comme un fait et acter qu'il doit vivre comme un adulte. Il doit prendre la pleine responsabilité et qu'il doit donc se distinguer des serviteurs de la maisonnée ici, puisqu'il est fils. Et donc, dans une démarche de foi, il prend sa place. Et les Galates, à qui Paul s'adresse encore une fois ici, selon cette illustration, eh bien, semblent oublier leur statut de fils. Et soit ils restent au stade d'enfant, soit ils restent sous le stade du serviteur, et probablement de façon inconsciente. Mais en tout cas, c'est le fait de ce qui se passe ici. En étant dans le cadre où ils sont, ils ne rentrent pas dans la position qui lui est donnée d'être fils, d'être enfant de la maisonnée. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, dit Paul, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. La réalité de l'Évangile ici, c'est celle d'un Père qui se révèle à nous par son Fils, Jésus-Christ, qui a envoyé son Fils, qui nous rachète par ce Fils, la rédemption, et qui nous adopte, qui fait de nous des fils. C'est-à-dire que par Jésus, qui lui est fils naturel, là je reprends un cours de Pierre Sauval sur la Trinité, et il y a un extrait, il faut que je le reprenne là, parce qu'il était vraiment intéressant. Je dis en une phrase ce qu'il dit en un quart d'heure, mais il développe en profondeur le fait que par le Fils, par Jésus, qui lui est fils naturel, nous devenons enfants de Dieu, mais par adoption. C'est que nous sommes des enfants adoptés, et en étant adoptés, nous sommes aussi héritiers avec le Fils naturel, Jésus-Christ, et ce, grâce à Dieu. Or ici, eh bien, les Galates, par leur retour en arrière, entretiennent une confusion. En s'écartant de l'Évangile, en revenant sous des pratiques religieuses faisant appel à l'Ancien Testament et à une forme judaïsante de la loi, eh bien, les Galates se positionnent tels des serviteurs et des esclaves, alors qu'ils portent le statut de fils. Et là, ça crée une confusion, en effet. Pour comprendre ce qui peut se passer en eux, comme en nous, eh bien, je pense qu'il serait intéressant de revenir, je l'ai déjà mentionné dans le passé, mais de revenir et de relever un aspect que tu as peut-être moins relevé dans le passé, de revenir sur cette parabole de Jésus, qui est un des textes clés qui illustre le propos de cette épître de Paul aux Galates. C'est pour ça qu'on y revient régulièrement ici, et je pense évidemment à la parabole du fils prodigue. Et là, je voudrais vous inviter à relever un détail dans cette parabole qui, j'espère, peut nous aider à comprendre ce qui se passe ici, dans ce que évoque l'apôtre Paul ici. Hein, je vous rappelle, dans cette parabole, dite du fils prodigue, que Tim Keller appelle le Dieu prodigue. Dans cette parabole, on a donc la présence d'un père et de deux garçons, qui oublient la notion de fils. Le fils aîné oublie qu'il est fils, dans le sens qu'on voit à la fin de l'histoire, il oublie qu'il peut jouir pleinement de son poste de fils. Le père va lui dire, mais tu es mon enfant, tu peux bénéficier de tout ce qui est dans cette maison, mais tu t'en prives. Pourquoi en fais-tu tout ceci ici? Et donc, on voit que le fils aîné est en rupture avec son père par rapport à cette réalité de fils. Et le jeune fils, ça c'est plus facile à voir, tourne le dos au père, mène sa vie, et c'est là qu'il y a un petit détail intéressant que je dois à Sinclair Ferguson, la relever, c'est des tas de choses, on les lit 50 000 fois, et puis c'est au moment où quelqu'un le dit, ben, c'est évident, c'est là ici, c'est ce que j'aime beaucoup aussi avec d'autres que je cite fréquemment, ils ont le petit détail qui fait que ça fait toute la différence. Eh bien, il y a un petit détail ici qui illustre, je crois, assez bien notre propos. Vous vous souvenez, ce garçon qui a quitté la maison, qui mène une joyeuse vie et qui se retrouve sans plus rien et qui rentre en lui-même. Quand il rentre en lui-même, voici ce qu'il se dit, voilà son plan. Voilà comment il envisage retourner à la maison, parce qu'il se dit, il fait bon rentrer à la maison, parce que même les serviteurs mangent mieux. Voici ce qu'il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Dans le contexte qu'on est en train d'évoquer, je ne sais pas vous, moi, ça résonne quelque part. De dire, il est fils, il est le fils de ce père, mais il s'estime, à juste titre, indigne d'être encore fils, et comme il veut quand même être au bénéfice de cette maisonnée où il fait bon vivre, eh bien, il se dit, je vais revenir vers le père et lui dire que je ne suis plus digne d'être appelé son fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Mais nous voyons que le père ne le prend pas ainsi. Le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds, apportez, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. » Et j'aime la façon dont Saint-Pierre Ferguson relève ce point, il dit « La fin de la phrase, c'est-à-dire que lorsque le fils revient et qu'il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés », Sinclair Ferguson dit « La fin de la phrase est étouffée par les baisers du Père ». On n'a pas fini avec ce tableau. On n'a pas fini avec cette scène. On n'a pas fini d'y découvrir la beauté et la profondeur de ce qui est ici. La fin de la phrase du fils est étouffée par les baisers du Père. Son fils était peut-être perdu, mais nous relevons qu'il est et qu'il reste son fils. Les deux garçons souffrent d'un problème commun. Et ça, on ne le voit pas forcément comme ça, mais là encore, Sinclair Ferguson, que je vais citer dans un court instant, nous montre à quel point, en fait, ces deux garçons ont un problème commun qui repose sur le mensonge qui a commencé les problèmes de l'humanité. En effet, dès le commencement dans le jardin d'Éden, le mensonge qu'a écouté Ève est celui qui anime ses deux frères, et c'est d'ailleurs celui qui nous anime un très haut pourcentage de chance ce matin. Je lis cet extrait de Sinclair Ferguson. Ce qui a été introduit dans la tête d'Ève et dans son cœur au cours de la conversation avec le serpent est une suspicion profonde vis-à-vis de Dieu, qui allait bientôt se transmuer en rébellion contre lui. La racine de son antinomisme, c'est-à-dire opposition et infraction à la loi, trouvait sa source dans le légalisme qui obscurcissait son entendement, émoussant ses sens et détruisant son affection pour le Père céleste. Maintenant, comme une enfant capricieuse devant son Père généreux, elle se comporte comme si elle voulait dire à Dieu « Tu ne me donnes jamais rien. Tu insistes pour que je doive mériter tout ce que je n'aurai jamais. » Et là, on entend les frères en train de parler là, dans cette parabole ici. Je reprends ce paragraphe avant de continuer ici. La racine de son antinomisme, l'opposition et l'infraction à la loi, trouvait sa source dans le légalisme qui obscurcissait son entendement, émoussant ses sens et détruisant son affection pour son Père céleste. Maintenant, comme une enfant capricieuse devant son père généreux, elle se comporte comme si elle voulait dire à Dieu « Tu ne me donnes jamais rien, tu insistes pour que je doive mériter tout ce que je n'aurai jamais. » Cela ne ressemble pas au légalisme dont nous avons l'habitude. Pourtant, c'est bien là qu'il s'enracine. Ce que le serpent a réussi à produire en Ève, en son esprit, ses affections et sa volonté, était un divorce entre la volonté révélée de Dieu et sa personne gracieuse et généreuse. En regardant le contenu de la loi, au lieu de l'entendre de la bouche de Dieu, la confiance s'est transformée en suspicion. Dieu est ainsi devenu celui dont les faveurs doivent se mériter. Et il termine la citation en disant ceci, « Ce qui constitue les racines et le moteur du légalisme, c'est l'échec avoir la générosité de Dieu et la sagesse de ses plans d'amour pour nos vies. » Je reprends cette phrase. Ce qui constitue les racines et le moteur du légalisme, c'est l'échec à voir la générosité de Dieu et la sagesse de ses plans d'amour pour nos vies. Et n'est-ce pas souvent ce qui traverse notre esprit? Dieu, pourquoi tu me prives de ça? Dieu, pourquoi ne réponds-tu pas à ce que j'aimerais que tu fasses? Etc. Les deux fils, dans la parabole, les deux fils, à la base, sont légalistes, étant insatisfaits de leur père, et l'un d'eux devient antinomiste. Mais la question pour nous, ce matin, pourrait être celle-ci. Et c'est ce sur quoi je vous invite à méditer, à réfléchir pour le reste de la journée et pourquoi pas pour le reste de notre existence. Finalement, qu'est-ce qui peut bien motiver les Galates à faire cette transition? Eux qui ont entendu l'Évangile, ont reçu l'Évangile, qu'est-ce qui peut bien les motiver à faire cette marche arrière? Qu'est-ce qui peut bien motiver ces deux garçons à ne pas rentrer pleinement dans la joie de leur père? Et qu'est-ce qui peut nous-mêmes nous motiver à vouloir, à quitter ou à vouloir quitter le statut de fils? L'élément de réponse à cette question, c'est que dans les deux cas, dans le cas du fils prodigue, les deux garçons, les deux frères ici, dans les deux cas, en fait, ce qui peut les motiver à être ce qu'ils sont, c'est l'éloge du moi. Pour l'antinomiste, qui est représenté par le jeune fils, si Dieu ne veut pas ultimement mon bien et me prive de ce que j'aimerais avoir, alors je vais décider de faire ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux. Et on a là cette prise de position, et si on réfléchit, qu'est-ce qui peut le motiver à vouloir ainsi trancher, se couper de sa famille, se couper de ce lien de père à enfant, et pour mener sa vie, sinon que de chercher une vraie liberté? Et la question, est-il libre? Est-il véritablement libre? C'est-à-dire, est-ce que le cheminement qu'il fait et qui fait qu'il s'écarte, qu'il quitte le statut de fils qui lui était donné, est-ce que véritablement ça le libère? Et quant au grand frère, le légaliste, eh bien, n'est-il pas dans sa pensée de celui, la motivation plutôt de quitter ce rapport père-fils, ne serait-il pas « je fais ce qu'il faut pour que le père fasse ce que je veux ». Je fais ce qu'il faut pour que le père fasse ce que je veux, dans le but d'être celui qui contrôle. Et là aussi, c'est dans le but de se dire « et je veux être libre, je veux maîtriser les choses ». En réalité, les deux écoutent le mensonge consistant à douter de la générosité du Père. Or, on voit bien dans le récit de cette parabole que ce Père est d'une générosité inouïe, tellement généreux qu'il laisse l'un de ses fils partir avec l'héritage, tellement généreux que lorsqu'il revient, il lui redonne tout ce qui est possible de lui donner, tellement généreux que l'autre qui vient se plaindre, il vient le chercher pour lui dire « mais viens participer à la fête, toi aussi tu peux bénéficier de toutes ces choses ». Combien de nous aurions agi autrement? Combien de nous n'aurions pas donné l'héritage? Combien de nous aurions mis des conditions au retour du Fils? Combien de nous n'auriez même pas reçu le Fils? Combien de nous aurions été durs avec l'aîné? Nous avons là un Père généreux qui n'est pas entendu. À vouloir la liberté, il la perd. À vouloir être libre et indépendant et maîtrise de leur propre vie, en réalité, ils deviennent esclaves. Et il est intéressant de voir que l'argument de Paul dans cet épître, qu'on a vu il y a quelques semaines en arrière, et là je vais revenir au verset 20 du chapitre 2, l'argument de Paul, c'est de dire en fait, si on veut cette liberté, si on veut vivre libre, l'Évangile en est la réponse, et l'Évangile nous dit qu'il est nécessaire de se perdre. Je cite Paul, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, je ne rejette donc pas la grâce de Dieu. Là est la vraie liberté. Là est le statut du Fils. Dans cette lettre de Paul aux Galates, Paul montre que ces Galates passent vraiment à côté de bien des choses. Il leur montre dans un premier temps qu'ils passent à côté des fondations. Il manque les fondations dont Paul revendique en être. Paul dira, moi j'ai rencontré le Christ ressuscité, j'ai été mis au rang des autres apôtres. Donc moi j'ai une parole qui est certifiée, qui donne la révélation des choses. Vous avez perdu le sens de ce qu'est le Père, laissez-moi vous rappeler qui est véritablement le Père. En n'écoutant pas Paul, en écoutant ceux qui étaient opposés au message de Paul, ceux qui les ont fait dévier, ils sont en train de manquer les fondations. On avait évoqué aussi un autre dimanche qu'il manque les Écritures elles-mêmes, qui reviennent aux Écritures, eux qui veulent relire l'Ancien Testament, Paul leur montre à quel point il manque les Écritures s'ils ne comprennent pas la clé de lecture des Écritures et que la clé de lecture des Écritures s'appelle Jésus-Christ. Et que s'ils continuent de la lire sans y mettre Jésus-Christ, ils vont manquer et manquer et manquer et encore manquer tout ce qu'ils peuvent lire, aussi bon que cette lecture soit, si elle n'a pas la bonne clé de lecture, ils vont passer à côté. On a même évoqué le dimanche de Pâques qu'il manque Pâques en voulant tellement revenir aux célébrations, en voulant tellement célébrer la Pâque juive, il manque la Pâque chrétienne. Il manque l'agneau qui a donné son sang, qui est mis en souvenir de la libération d'Égypte et qui met son sang pour sauver de la mort, et bien que cet agneau-là est mort en ce matin, en ce jour de la Pâque juive, pour ressusciter en ce jour de la Pâque chrétienne. Et ainsi, il manque le message de l'Évangile. Il manque, on l'a vu la semaine dernière, l'unité en Christ, en sombrant dans une uniformité, en sombrant dans un moule dans lequel tout le monde doit être pareil, qui est le moule du judaïsant, mais ils sont en train de manquer l'unité en Christ et la perspective qui était devant eux. Maintenant, il manque le statut de fils. Et nous, ce matin, est-il possible que nous manquions quelque chose? Est-il possible que dans notre cheminement spirituel, est-il possible que ce matin, au moment où nous nous retrouvons ici, est-il possible que nous soyons en train de manquer quelque chose? S'il y a une chose que je crois serait bonne de retenir, le statut de fils qui nous est donné par l'œuvre de l'Évangile, qui nous est donné par le Fils, ne se perd pas. Est-ce qu'on pense à ça? Si on pense à ce garçon qui a quitté son père et qui a tout dilapidé, il reste le Fils. Ça veut dire que la porte est toujours ouverte. Ça veut dire que le Père est toujours prêt à recevoir. Et quand Paul dit « Vous êtes ses fils », il parle à des Galates qui sont en train de partir sur une vraie mauvaise voie. Ça veut dire d'ailleurs que ce n'est pas de l'apostasie. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire fausse route et qu'ils sont interpellés à la repentance, interpellés à réfléchir les choses, à remettre les choses dans leur juste place. Mais ça veut dire aussi que ce matin, où que nous soyons dans nos vies, si par hasard on a cette pensée, ce cheminement qu'on a manqué le coche de notre vie, si ce matin on pense qu'il y a quelque chose où je suis allé trop loin, je ne peux plus être pardonné, où je ne peux plus être restauré, si ce matin je me dis qu'il y a trop longtemps que j'ai laissé tomber le Seigneur, si ce matin je me dis mais je me trompe sur toute la lignée, etc., et même en ce moment j'ai encore du mal, mes frères et mes sœurs, puis-je dire que si vous êtes déclarés fils par adoption, ça ne vous sera jamais enlevé. Ça veut dire qu'il y a là un droit dont on ne doit pas se priver. Le droit de revenir dans la maison du Père et de savoir que le Père veut nous restaurer dans sa maison. La fin du texte que nous avons. Parce que vous êtes des fils. Paul qui dit aux Galates, égarés. Paul qui dit aux Galates qui sont en train de prendre un chemin complètement opposé. Paul qui dit aux Galates qui ont manqué un certain nombre de choses, qui ont manqué les fondations, qui ont manqué la compréhension, la clé de lecture des Écritures, qui ont manqué la Pâque, qui ont manqué les trucs liés à Christ. Paul leur dit, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie, Abba, Père. En lisant ça, encore une fois, je vois ce garçon qui revient à la maison et qui a devant lui son père. Son père qui l'accueille. Son père qui le laisse comme un fils. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Prions. Oh Seigneur, merci pour cet extraordinaire plan de salut que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce que alors que dès le commencement des choses, nous nous égarons, que nous sommes si rapides et si prompts à entendre le mensonge du diable du jardin d'Éden, pensant que tu ne veux pas notre bien, que tu veux nous priver de bonnes choses, pensant que tu ne veux pas nous laisser aller à la bonne vie, pensant que nous ne pouvons que venir et te racheter. De savoir, Seigneur, que tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, et que tu l'as donné afin que nous puissions être adoptés et porter ce nom de fils, de fille, d'enfant de Dieu. Seigneur, je ne sais pas si nous réalisons cela. Et je ne sais pas combien nous réalisons aussi que ce n'est pas ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. C'est toi, en Jésus-Christ, qui nous adopte et qui nous appelle à rentrer à la maison. Seigneur, tu connais nos cœurs ce matin. Tu sais combien on a besoin de cheminer. Tu sais tout ce que nous ne comprenons pas. Tu sais, Seigneur, combien on a besoin, en effet, de cheminer vers l'Évangile, vers cette croix, vers ce tombeau vide. Combien on a besoin de cheminer dans la compréhension des choses, dans tout ce que tu nous as révélé. Et notre vie entière ne suffira pas. Et Seigneur, tu nous invites à rentrer à la maison. Et Seigneur, peut-être ce matin, au fond de moi, je me dis, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne de passer le portillon du jardin. Mais Seigneur, tu nous ouvres la porte. Tu es mon fils, ma fille, bien. Peut-être ce matin, je suis si éloigné que je me crois mort, ce qui veut dire coupé d'eux. Mais le Père prie avec joie. Mon fils qui était mort est là. Seigneur, pardonne-nous pour les fois aussi où nous restons au stade d'enfant. Pardonne-nous les fois où nous cherchons notre autonomie, où nous nous égarons. Seigneur, tu nous invites à revenir et à prendre la place que tu nous donnes d'avoir. Et Seigneur, c'est inouï de penser que non seulement tu nous adoptes, que tu nous donnes d'être co-héritiers avec Christ, waouh, mais en plus, Seigneur, ce que tu donnes, tu ne le reprends pas. Donne-nous d'autant plus, Seigneur, ce matin, de revenir à toi et de revenir dans ce statut que tu nous donnes d'enfant de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de porter ce titre avec humilité, avec fierté. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous laisser abattre par les circonstances, de ne pas nous laisser abattre par les mensonges, mais de porter nos regards vers toi et de te laisser nous donner, de cheminer, de façon à ce que nous puissions en effet crier « Abba, Père ». Et à ce sujet, Seigneur, eh bien, nous voulons continuer d'apprendre. Continuer d'apprendre à cheminer avec toi et en effet apprendre à te prier. Et Seigneur, nous voulons et bien ensemble te prier maintenant et te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.